Les gens se plaignent de la sécurité. Alors on leur met plus de flics dans la rue. Mais c'est tout le temps dans les mêmes. Quand vous voyez un flic dans une rue, c'est qu'il n'y a pas de danger. S'il y avait du danger, le flic serait pas là.
Les briques en Bresse, le pavé dans la mare.
Avec Briques et Pavés, l'émission qui dégrange. Et bienvenue dans Briques et Pavés, l'émission qui
dérange.
Avec aujourd'hui dans le studio de Radio B, bien installé derrière les micros, nous avons
Christelle,
Franck,
Agnès,
Émilie
et Philippe
et Roland.
Bon, pour tout vous dire, Philippe et Roland risquent de nous retrouver un peu plus tard lors de l'émission. Ils arrivent. Alors, Briques et Pavés, c'est une émission collective à géométrie variable, imaginée et construite par les bénévoles de l'association de Lagrange au Parapluie, espace de vie sociale situé à
Saint-Julien-sur-Ressouze.
Chaque mois sur Radio B, vous découvrirez une nouvelle émission, soit de coups de cœur musicaux, soit une émission sur un thème qui nous tient
à cœur.
Alors, comme d'habitude, on pose les briques, on soulève les pavés et on ouvre la discussion. Aujourd'hui, on vous propose un thème qui claque comme une sirène. 22 v'là les flics. Contrôle ou secours, force de l'ordre ou gardien de la paix, soutien ou colère, violence ou assistance, aujourd'hui on démonte, on questionne, on débat ensemble avec évidemment une multitude de références musicales. On commence maintenant par Parabellum et l'emblématique chanson Cayenne. Mettez le son à fond, levez le poing et chantez bien fort.
On connaît tous l'expression « 22 v'là les flics ».« 22 v'là les flics » est une expression française familière employée lorsque quelqu'un tient à avertir les membres d'un groupe, dont il fait partie, qu'il faut fuir un danger. Il existe de nombreuses théories, pas moins de 10 d'ailleurs, quant à l'origine de cette expression qui en France sert à avertir l'arrivée de la police. Première explication. 22 signifie couteau dans l'argot français du 19e siècle. L'expression signifierait donc tous à vos armes. L'arme favorite des voyous du temps était donc bien le couteau d'arsouille avec une lame de 22 cm. Pourquoi pas ? Deuxième explication. En mai 68, quand les CRS arrivaient, les manifestants criaient 22 v'là les flics. Pour que tout le monde se munisse de quoi ? Bah de pavés, briques et pavés, dont la longueur du pavé était de 22 cm. Troisième explication, un homme normalement constitué à deux jambes, qui forme le chiffre 11, hein, on dit comme ça, et quand on disait 22, c'est que c'était le moment de courir, parce que les flics approchaient. 11 fois 2, donc 22, on doit courir ou marcher deux fois plus vite avec ses deux jambes, pourquoi pas. Quatrième explication. L'expression viendrait aussi de l'addition des chiffres correspondants, alors ça c'est fumeux, hein, au rang des lettres du mot chef, C-H-E-F, dans l'alphabet, puisque vous faites C-3, H-8, E-5, F-6, doudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoudoud donc le mot chef qui fait 22 en additionnant. C'est pas mal ça aussi. Cinquième explication. Possible que 22 v'là les flics proviennent d'une expression dérivée. 22 serait alors une déformation du juron rural 20 dieux. On dirait donc plutôt 20 dieux v'là les flics, devenant petit à petit mal prononcé 22 v'là les flics. Ça fait partie des explications. La sixième explication, il n'y en a que 10. Hein. Certains disent que le 22 était autrefois le numéro de téléphone de la police. Je n'ai pas vérifié. Remplacé de nos jours par le 17. Bon, ça c'est
à vérifier. C'était quoi ? C'est pas le 22 à Agnières ?
Et il y avait le 22 à Agnières aussi. Ouais. Donc peut-être qu'on serait pas loin d'une histoire avec les renseignements, je ne sais pas.
Ouais,
septième explication, allez j'accélère. C'est au chapitre, non, celle-ci est rapide. C'est au chapitre 22, je n'ai pas vérifié, hein, de l'évangile selon Saint Luc. Que Jésus est quoi ? Il est arrêté. La police, 22 de la Ligue. 22, Jésus est arrêté. Vous l'aimez bien celle-ci aussi, je l'aime
non,
beaucoup.
Ça me fait penser à l'évangile selon Saint-Luc. D'hier, où le matin n'existe pas.
Et là, c'est Saint-Luc. La huitième, on se rapproche du bout. Une référence tout simplement au 22 quai des Orfèvres, adresse de la PJ de Paris. Ouais, pourquoi pas. La neuvième, 22 qui correspond au nombre de lettres utilisées dans l'expression. Ça rejoint l'histoire du chef, ça. L'expression « Attention, voilà les flics !» Donc a priori, si vous comptez les lettres, ça vous fait 22 lettres. « Attention, voilà les flics !» Pourquoi pas. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. C'est l'émission Briquet Pavé en janvier. La version qui est valide, a priori, la dixième, c'est celle qui concerne la typographie. Core 22, donc on est dans l'imprimerie du 19e siècle. Core dans le sens de Word, hein, vous savez, le traitement de texte, donc le Core 22. Le Core 22 qui est utilisé pour les gros titres et le 10 qui était utilisé pour les caractères des textes qui suivent. Donc un nombre 22 tout désigné pour annoncer la venue inopinée du responsable de l'imprimerie, du chef. Ainsi, si un employé de l'imprimerie se mettait à crier « 22 !» comme ça, tout court, hein, à ses collègues, c'était pour indiquer que le chef de l'imprimerie arrivait et qu'il fallait vite interrompre une pause non autorisée par le patron.
Mmh. Ah, c'était carrément en caractère gras.
En caractère gras. Et il y avait même le 44 quand c'était le grand responsable qui venait, le grand responsable de toutes les imprimeries, le grand chef, la hiérarchie suprême. Il criait 44. Là, il fallait vraiment se mettre dans les rangs. Donc l'usage populaire s'est ensuite chargé d'ajouter les flics comme symbole de l'autorité. Et donc voilà, 22, voilà les flics. Vous avez donc 10 explications plausibles, elles sont intéressantes les 10, à creuser, et je ne saurais laquelle choisir en termes de choix de personnel,
C'est intéressant, ouais. ça a fait écrire quoi, ça a fait dire plein de choses.
Je trouve aussi, et à méditer comme on dit, on va écouter, c'est pas un hasard, le groupe Police, The Police, dont le chanteur était bien entendu Sting, So Lonely.
Yeah.
De Lévla. Mais de qui parle-t-on exactement ? Des gendarmes, des policiers, des CRS, des militaires ? Est-on inquiet ou plutôt rassuré lorsqu'on entend « 22 Lévla » ? J'avoue, même à 50 balais, mes émotions sont toujours aussi fortes lorsqu'ils sont pas très loin. Nous savons parfaitement que les policiers et les gendarmes sont là pour veiller sur nous, et plus globalement sur l'ordre public. Ouf ! Mais pourquoi alors nous questionnons-nous toujours sur le pire quand on les croise? Y a-t-il eu un accident? Y a-t-il eu un vol? Bref, si on réfléchit bien, c'est assez rare de rester indifférent à l'approche des forces de l'ordre. Première information, d'après un sondage, fin 2024, figurez-vous que les Français ont une meilleure image des gendarmes que des policiers. À 81% pour les gendarmes et seulement 65% pour les policiers. Bon, c'était le petit moment chiffre. Les gendarmes seraient donc plus rassurants que les policiers? Bon, ok. D'ailleurs, connaissez-vous bien les différences entre gendarmes et policiers?
Mais non. Dis-nous tout. Dis qu'il y a peut-être ville-campagne, mais...
Ouais, il y a plein de choses, mais effectivement. Les gendarmes sont les héritiers de la maréchaussée, une des plus anciennes institutions françaises. Ils ont un statut de militaire et ils dépendent, cette fois-ci comme les policiers, du ministère de l'Intérieur. Mais parce qu'ils sont installés effectivement sur tout le territoire rural, ils ont une forte proximité avec la population et ils créent, ils entretiennent un sentiment de confiance plus pérenne, c'est sûr. Mais alors pourquoi ce sentiment est-il moins partagé avec les policiers? Il faut quand même distinguer la police municipale et la police nationale pour mieux comprendre. La police municipale est présente dans les grandes villes, sous l'autorité du maire. Les policiers sont des civils à la différence des gendarmes. Ils assurent des missions de prévention et de maintien de l'ordre. Par exemple, ce sont eux qui assurent la sécurité d'un marché. Et ce sont eux aussi qui verbalisent les écarts de conduite. Et oui, quand on a juste plané deux secondes et croqué la ligne blanche, c'est à eux qu'on a affaire. Bon, c'est du vécu, hein. Pas trop content de les croiser, du coup. La police nationale est plus transverse. Elle assure bien évidemment en priorité la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Mais elle gère aussi tout plein d'autres choses, comme la maîtrise des flux migratoires, la lutte contre la criminalité organisée, la protection du pays contre les menaces extérieures, etc., etc. Mais nous voulons rassurer, non? On devrait être content d'avoir des policiers.
Et oui.
Alors pourquoi cette image dégradée du policier? Flic, poulet, vache, comme qualificatifs les plus doux. Est-ce seulement quelques affaires discutables de violences policières qui viennent noircir ce tableau? De simples petites bavures noyées dans une grande série de success stories? Allons, pas de quoi se révolter, non? C'est un terrain tendu et clivant, vous l'aurez compris. Et toi, tu en penses quoi? Mais que fait la police? Je vous propose de méditer tout ça avec Georges Brassens, Hécatombe.
Parfait.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore, sous la forme de Maccabée, de la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps.
Briques et pavés, l'émission qui dégrange.
Allez, on enchaîne. Moi, je voulais vous parler d'un article de presse. Un article qui commence par une phrase simple, presque banale et pourtant explosive. Ça s'appelle « Je suis flic et j'ai des choses à vous dire ». Cet article a été publié dans Libération en 2020. Alors vous allez me dire que depuis, il est passé de l'eau sous les ponts, ou plutôt dans les méga-bassines de Sainte-Soline. Il est signé, cet article, par un policier qui, en fait, est un pote de pote. Bref, du coup, je m'y suis intéressée. L'auteur, c'est un flic de base, comme il dit lui-même. C'est pas un héros, c'est pas un porte-parole, pas un syndicaliste énervé en plateau télé. C'est juste quelqu'un qui porte un uniforme en journée et qui redevient le soir un papa, un mari la nuit et un copain le week-end. Il commence son interview comme ça.
J'exerce la profession de gardien de la paix depuis une quinzaine d'années. Gardien de la paix, à la base, c'est le flic en bleu que les citadins peuvent croiser en de multiples occasions. Je pourrais être celui qui contrôle l'identité d'un jeune dans le métro, celui qui fait la circulation, celui que vous appelez parce que la dispute est devenue violente, celui qui vient constater des dégâts ou faire cesser une infraction, parfois aussi celui qui accompagne une manifestation ou participe à la répression d'une émeute, répondant aux 17 pour vous secourir, qui vous rassure, qui vous empêche, bref, qui vous sauve. Le flic de base, en somme, banalement au service d'une institution aux missions multiples et à la réputation exécrable, à tort ou à raison.
Bon, ok, là, on l'imagine bien, notre flic. Alors pour moi, le fond du propos de ce policier est très très intéressant parce qu'il refuse les cases. Il ne dit pas « la police a toujours raison », loin de là. Il critique la prise de pouvoir, la violence illégitime et les abus dus à l'uniforme ou à la fonction. Il ne dit pas non plus « ACAB », mieux dit par Agnès, prof d'anglais.
Oh yeah, all cops are bastards.
Tellement bien dit. Parce que dans « ACAB », il y a « all », tous. Et nous qui luttons constamment contre les stéréotypes, les préjugés de genre, de couleur de peau, on ne peut pas non plus généraliser pour toutes les personnes qui se sont enrôlées dans la police. Et puis, si on réfléchit bien, transformer tous les policiers et policières en ennemis absolus, en fait, ça nous empêche de comprendre vraiment où se situe réellement le pouvoir de décision et de penser vraiment à qui donne ces ordres-là, qui décide là-haut, qui crée ce climat social aussi tendu depuis quelques, voire de nombreuses années. Mais alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce policier ? Dans cet article, il adresse plusieurs messages. Dans un premier temps, à ses collègues, il dit
« Attention à ne pas confondre métier et idéologie !»
Et moi j'ajoute « Ne faites pas trop de zèle les cocos !» Aux politiques, il dit
« Vous devriez vous lever et demander à être tenu pour responsable du résultat de vos politiques, du climat social qui génère les manifestations et les émeutes, du délitement d'une société qui ne comprend plus nos actions, de l'absurdité de notre organisation, de la faiblesse des réponses que vous apportez aux problèmes et certains, et de la trop grande brutalité que vous réservez à ceux qui vous contestent. Je crois en la loyauté totale des fonctionnaires, et loyaux la plupart le sont, mais c'est à la démission que vous nous pousserez en nous instrumentalisant. »
Voilà, ça c'était pour nos amis politiques. Il s'adresse aussi dans son article aux journalistes. Que dit-il ?
Filmez-moi, photographiez-moi, parlez de moi, mais n'oubliez pas que vous observez des outils institutionnels, pas des miliciens idéologisés. Et, accessoirement, des hommes et des femmes, pas des animaux de foire. Montrez vos images à nos juges, aux citoyens aussi, pour qu'ils puissent juger des décisions de leurs représentants. Nous sommes nombreux à ne pas nous sentir agressés par votre travail et nous regardons vos témoignages aussi, avec curiosité, stupéfaction, avec honte parfois. Mais sachez que nous aussi jugeons les actes de nos collègues avec une acuité professionnelle d'autant plus dure qu'elle n'ignore rien de la réalité. Nous devrions même participer, aider à votre travail.
Donc là encore, une recherche de justice. Et il s'adresse à un dernier groupe de personnes, à savoir ses futurs collègues, futurs policiers, policières. Et il nous dit...
Bon alors, il est possible d'être un policier consciencieux, faute d'être irréprochable, loyal mais pas aveugle, serviable sans être corvéable, courageux mais pas suicidaire. J'essaye de faire cela et il appartient à chacun et chacune d'entre nous de le faire.
Alors voilà pourquoi cet article, même 5 ans plus tard, il mérite encore d'être lu et surtout entendu. Parce qu'il nous oblige à faire ce qu'on évite très souvent, à savoir penser sans slogan tout fait, sans camp figé et sans raccourci confortable. Il nous demande de regarder où est le pouvoir, qui décide, qui ordonne et qui fabrique le chaos social et qui envoie aux suites d'autres le gérer. Ce texte nous rappelle que derrière un uniforme, il y a des choix individuels, mais surtout des responsabilités politiques. Sur ce, voici un morceau de Renaud qui s'intitule « Willy Brouillard, le flicard ».
Sur la banlieue, Willy ouvre enfin les yeux. Il s'était pioté à l'aube, peut-être un peu fracasse. Il se lève, se lave, se fringue, son blouson et son flingue. Il a mal aux cheveux, tant pis. Le v'là parti, ronde de nuit, dans les ruelles noires. Rôle de vie pour Willy Brouillard, le flicard. Baston au voltigeur, pas bon, j'irai tout à l'heure. Je fais pas le poids tout seul, sans les potes, puis j'ai pas mes menottes. Direction l'Intermarché, hier soir ils l'ont pillé. Rien à signaler, tout est calme, il n'y a rien qui crame.
Vous êtes bien sur les ondes du 90.00 sur Radio B pour l'émission Briques et Pavés. J'ai le plaisir d'accueillir Roland dans le studio afin de creuser avec lui notre thème du mois de janvier, v'là les flics. Bonjour Roland. Tu as fait ta carrière dans le Rhône à la brigade de recherche et d'investigation de Lyon des années 80 à 2002. En fait, c'est un métier un peu secret. Quelles sont les missions historiques de la BRI ?
Alors bonjour, la première BRI a été créée à Paris en 1964 et placée sous les ordres du commissaire François Lemoëlle. Cette brigade sera popularisée par le commissaire Robert Broussard. Les missions historiques de la BRI étaient placées et sont placées sous trois grands axes : surveillance, filature, interpellation. Les voyous, n'étant pas tenus par des compétences territoriales comme les officiers de police judiciaire, pouvaient se déplacer selon leur bon gré dans le territoire français pour commettre leurs méfaits. Devant cet état de fait, il est créé en 1976 deux autres BRI, l'une à Lyon, l'autre à Nice. Les déplacements Paris-Lyon-Marseille étant privilégiés par la pègre. Les policiers affectés à ces brigades bénéficiaient d'une compétence nationale et pouvaient donc œuvrer en toute légalité partout en France.
Ces métiers en fait, de surveillance, de filature, sont un peu secrets. Du coup, comment on en arrive à ce métier ? Quelle a été ta formation ?
Alors, ma formation, j'ai fini mes études en 1968 et après mon service militaire, effectué jusqu'à fin mars 70 à Trèves en Allemagne, j'ai rejoint Lyon où j'ai travaillé pendant un an dans une usine au sud de Lyon. En avril 71, je me suis inscrit au recrutement d'enquêteurs contractuels dans la police, mon beau-père, gardien de la paix, m'ayant averti de cette possibilité. Alors je suis admis après deux entretiens avec des commissaires de police, puis avec des responsables préfectoraux. Le 2 août 71, j'intègre le commissariat de Vaise à Lyon. J'ai commencé par l'accueil du public, puis placé en binôme avec un OPA, officier de police adjoint. Dès lors, je prenais des plaintes, les vols de voitures, j'exécutais des instructions du parquet et terminais les différentes auditions dans les enquêtes, par exemple de coups et blessures. Et je prenais conscience du CPP, c'est très important pour la police, le Code de procédure pénale. J'ai été titularisé enquêteur en 73 et en 1979, je réussissais le concours d'inspecteur de police, la nouvelle appellation des officiers de police adjoints. En novembre 80, à l'issue de ma formation à l'école de police de Canécluse, Mon classement final m'a permis de choisir le SRPJ de Lyon, service régional de police judiciaire, le directeur du service m'affectant à la BRI.
Alors pour moi, la BRI est quelque chose de très nouveau et c'est vrai que je suis agréablement surpris et c'est vrai que c'est important de le dire que c'est des métiers avec justement tout un temps de formation et puis un aspect juridique. C'est, on n'est pas, on n'atterrit pas là par hasard, entre guillemets. Et du coup, malgré l'image qui est véhiculée, j'ai l'impression dans ce que tu me dis que tu n'as pas choisi ce métier pour le côté cow-boy.
Ah, pas du tout, pas du tout. Je n'avais pas de motivation particulière. J'ai appris au fil des affaires à apprécier de plus en plus ce métier de surveillance, filature et interpellation. Alors, trois groupes de travail de 8 policiers, placés sous l'autorité de 2 commissaires, constituaient l'armature de la brigade. Chaque groupe avait ses dossiers à gérer. Les trois groupes se réunissaient lorsque ça devenait chaud, selon l'expression policière, dans l'un des dossiers. Imminence d'un VMA, un vol à main armée, par exemple. Il n'y avait pas de côté cow-boy. La patience, la discrétion, la solidarité étaient nos plus grandes forces. Avant l'interpellation des voyous en flagrant délit, il pouvait se passer plusieurs mois de surveillance et de filature. Le premier flagrant délit, auquel j'ai participé, a eu lieu le 14 mars 1981. Il s'agissait de l'interpellation de 2 motards alors qu'ils venaient de braquer une caisse d'épargne à Lyon. Les premières surveillances avaient débuté en novembre 1980.
Donc quand on voit les détails effectivement de tes missions et le rythme pour la résolution d'actions comme celles que tu menais, on voit effectivement qu'une des qualités, et sinon effectivement une des constances dans ton métier, c'est la minutie, la patience. On n'est pas dans quelque chose un petit peu véhiculé d'images de course-poursuite et de rythme effréné.
Non, j'ai jamais participé à aucune course-poursuite, pour ma part. Alors la BRI de Lyon existe toujours, mais son travail a beaucoup évolué. Les policiers qui la composent actuellement ont des vêtements floqués BRI Lyon dans le dos. Ils se rapprochent de plus en plus du travail du RAID, alors recherche, assistance, intervention, dissuasion. Pour ma part, il m'est arrivé avec d'autres collègues de surveiller une équipe de malfaiteurs sur la plage du Cap d'Agde. Nous étions en maillot de bain. Nous nous sommes baignés comme tout un chacun. Notre équipement, armes et autres, dans les sacoches posées sur les serviettes. Bien sûr, l'un de nos collègues assurait cette surveillance particulière. Comme je l'ai précédemment mentionné, la patience était très importante. Alors je précise, je n'ai participé à aucune course-poursuite en voiture. Si cela avait été le cas, c'est que notre travail d'interpellation eût été mal effectué.
C'est important de faire tous ces points, notamment avec un peu le lien que tu dis, l'évolution du RAID, choses comme ça, puisqu'on voit que la police a changé au gré des changements de la société également.
Tout à fait.
Et petit clin d'œil, comme effectivement on sait que ce travail tel que tu me l'as exposé était un travail de patience, je t'ai demandé, Roland, de choisir un morceau qui peut-être a occupé des temps d'attente et de filature longues dans des voitures. Donc, quel est le morceau que tu as choisi de partager avec les auditeurs de Radio B?
Voilà, j'ai choisi une chanson de Reggiani, un chanteur que j'aime beaucoup. Il suffisait de presque rien.
Eh bien, musique.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime. Que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette? Allons, regarde-moi et vois les rides qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse.
Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. Vraiment, de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires.
Nous voilà de retour dans les studios de Radio B pour poursuivre cet entretien avec Roland. Précision importante qu'il a donnée, c'est qu'effectivement, l'idée de cette immersion aujourd'hui dans la BRI, c'est un témoignage historique. Ce n'est pas effectivement quelque chose d'actualité sur le fonctionnement 2026 de ces services-là. Moi, ce que je retiens dans la préparation qu'on a fait ensemble, Roland, c'est... Plusieurs fois, tu m'as parlé du collectif, de la cohésion d'équipe, de valeurs comme celle-là. Voilà, comment on faisait dans ton métier pour collectivement prendre une décision, d'intervenir ou pas d'ailleurs, pour qu'une interpellation se passe bien. Qu'est-ce que c'est qu'un bon travail, une bonne interpellation?
Alors déjà, on va commencer par une filature, si vous voulez bien. Une filature, ça peut être très longue et ça demande un travail collectif et cohérent. Chaque équipage dans une voiture est en relation radio avec le reste du dispositif. Et on est tête de filoche, chacun son tour. Tête de filoche, ça veut dire qu'on est en vue directe du véhicule suivi. La plus longue des filatures que nous avons effectuées a duré 10 heures. Elle nous a conduit de Villeurbanne, la banlieue de Lyon, jusqu'à Maubeuge, dans le Nord. Et en plus de ça, les voyous étaient descendus dans l'hôtel, et on surveillait l'hôtel pendant 2 heures, la sortie de l'hôtel toute la nuit. Alors, nous essayons d'organiser les interpellations avec la plus grande surprise. On attendait toujours le mouvement favorable. Les malfaiteurs, dès la fin de leur braquage, étaient sous adrénaline. Alors, ce n'était pas à ce moment-là qu'il fallait essayer de les prendre. Celles-ci tombant au fur et à mesure de leur fuite, ils étaient moins attentifs à l'environnement et nous décidions alors de l'interpellation, souvent à hauteur de la voiture relais. Alors je vous explique, la voiture relais, c'est la voiture qui sert à partir du domicile, qui est posée dans un endroit, et à partir de cet endroit, ils prennent la voiture volée pour faire le braquage. Voilà.
D'accord. Et tu m'as évoqué aussi le cas d'une personne que vous avez repérée une fois dans une gare, donc un espace public fréquenté. Et donc, contrairement à l'image, pareil, un petit peu... chevaleresque, pour ne pas dire autre chose, effectivement, d'une interpellation avec plein de monde, avec fracas. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait en bonne intelligence?
Alors, on travaillait à l'époque sur Action Directe. Nous étions en Avignon, avec un groupe BRI Nice, un groupe BRI PP et un groupe de Lyon. Et je peux le citer maintenant, nous étions là pour interpeller Régis Schlecher. Et bon, donc on avait 24 heures de surveillance et chaque équipe faisait 6 heures. Avec mon collègue, on finit notre tour et puis on était tranquillement en train de manger que d'autres collègues nous disent « il vient d'arriver ». Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va direction la gare où il se rendait lui aussi. Et puis bon, la gare d'Avignon est un petit peu surélevée par rapport à une rue principale. Alors on était avec nos sacoches, on regardait un peu ce qui se passait. On baisse la tête, il y avait Schlecher en train de nous regarder comme ça. Et il rentre dans la gare, ben nous on fait comme si rien n'était avec le collègue. D'autres collègues arrivent, nous demandent, on va l'interpeller dans la gare. On lui a dit non, il nous a repérés. Et après il se rendait dans une maison, on l'a interpellé dans la maison, et il nous a dit, après, qu'il avait repéré deux bandits flics à la gare d'Avignon, et puis on a bien fait de ne pas intervenir, il avait une grenade défensive dans la poche.
D'accord, ben voilà, c'est un témoignage fort et qui montre effectivement toute la modération et la réflexion collective qu'il faut avoir là-dessus. Pour finir cette interview, je ne résiste pas à te poser une question qui est quand même un peu plus people. Quand on fait le métier de policier, est-ce qu'on se détend le soir devant un des nombreux téléfilms ou séries policières, parce qu'il y en a énormément, très fréquents à la télé, et où est-ce qu'on livre des polars?
Voilà, moi je n'aime ni les films policiers ni les séries policières. Les bandes-annonces sur la série télévisuelle actuelle BRI ne me donne pas du tout envie de regarder cette série. Elle semble tellement éloignée du travail BRI que j'ai connu. En point de vue lecture, je suis un fan absolu de Michael Connelly, un romancier états-unien, pourquoi on dit américain, je ne sais pas, qui relate les enquêtes de l'inspecteur Harry Bosch et de son travail fastidieux d'enquête, fait de recherche de preuves, vérification, fausses pistes, de recoupement avec la pression de la hiérarchie politisée.
Eh bien, écoute, merci Roland, parce que je pense que les auditrices et auditeurs ont vu qu'il y avait beaucoup de, comment dire, d'exemples, d'illustrations et de vécu par rapport à ce témoignage. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas beaucoup et ça confirme par rapport au ton de cette émission qu'on a choisie avec le côté un peu provocateur, v'là les flics, qu'on ne peut pas dire la police en général, parce qu'il y a des missions très différentes et des façons très différentes de les exercer selon les injonctions et l'époque. Moi, ce qui me semble important en conclusion, c'est de dire aussi qu'il ne faut pas que cette question de la sécurité ou de la police soit trustée par un seul pan, notamment politique, voilà, et instrumentalisé.
Tout à fait.
Donc
oui,
c'est vrai que j'ai deux exemples qui me viennent en tête et que j'ai regardé quand on a préparé cette émission. C'est qu'effectivement, en début 2025, les élus du Parti communiste français ont interpellé le ministre de l'Intérieur de l'époque, donc Bruno Retailleau, sous l'angle de la sécurité et du droit à la tranquillité publique, en disant qu'effectivement, le travail nécessaire de la police était effectivement de permettre aux familles des quartiers populaires, les habitants des villes et villages, ainsi que les agents des services publics, de ne pas subir la montée de l'insécurité. Et je trouve que c'est intéressant, parce que ces mêmes élus estiment que le sujet de société, qui est la police et la sécurité, demande une approche un peu large, et je les cite, une approche cohérente, sans tomber dans la surenchère répressive, sans lendemain, ou dans l'obsession migratoire de l'extrême droite, mais en abordant cet enjeu de manière globale, alliant les réponses dans les domaines de prévention, de santé publique, la médiation, l'enquête, comme on l'a vu avec ton témoignage, la répression comme la réinsertion des délinquants et criminels pour combattre à la racine les logiques de domination et d'exploitation qui forment la pierre angulaire des réseaux criminels ou délinquants. Donc je pense que c'est important d'avoir ce champ et cette ouverture sur cette question qui n'est pas toujours simple à aborder. Et moi aussi, du coup, j'ai un petit clin d'œil et un conseil de lecture à vous donner, qui est effectivement un livre d'Anthony Cailly, qui a pour titre « Que peut la police ?». Et Anthony Cailly a la particularité d'être enquêteur comme toi, parce qu'il est enquêteur au sein de la police judiciaire depuis 20 ans. Et il est aussi secrétaire général de la CGT intérieure. Donc ça lui donne cet double éclairage. Et ce qui m'a paru intéressant dans la présentation que j'ai vue de son ouvrage, c'est qu'il dit que les choses importantes pour lui, c'est d'avoir découvert un métier avec des valeurs fortes de service public, d'aide à la personne et un vrai collectif de travail. Je pense qu'effectivement, ça résonne avec ce que tu as vécu et essayer de nous
tout
partager
fait,
aujourd'hui.
Tout à fait.
Donc je te remercie pour ce temps consacré et je remercie Radio B de nous avoir donné l'occasion de connaître un peu mieux ce service Berry qui est quand même assez méconnu et fantasmé. Merci à tous.
Merci Philippe.
L'émission qui dégrange.
Les polars ont la cote, peut-être plus que la police, mais pourquoi? Le suspense, un héros qui peut être davantage un anti-héros dans lequel le lecteur peut se reconnaître ou se rêver être, et surtout le côté enquête, jeu de pistes à résoudre. D'ailleurs, de nombreux romans policiers ont été mis à l'écran. Il y a également de nouvelles séries policières. Je vous propose aujourd'hui un jeu qui nous permettra de reconnaître quelques-unes de ces héroïnes ou quelques-uns de ces héros de romans ou du petit écran. Alors, est-ce que vous êtes prêts ?
On a les buzzers, on est prêts.
Blind test.
Allez, cette femme est l'héroïne de 12 romans policiers qui se déroulent essentiellement à St. Mary Mead. Elle est une armchair detective.
J'essaye de tricher.
Détective en fauteuil qui résout les énigmes sans aller forcément sur le terrain, mais par son intuition et sa connaissance de la nature humaine.
Une détective en fauteuil,
détective en fauteuil, c'est-à-dire qu'elle ne va pas forcément sur les lieux.
Ah.
Et elle a été créée par Agatha Christie.
On connaît tous Poirot, donc on va dire quoi ?
Est-ce que peut-être Jimmy, derrière la vitre, peut nous aider ? Même Jimmy ne sait pas,
on est sûr ?
Karine Navet, parce qu'il y a Hercule Poirot, Karine Navet, ou des trucs comme ça, ou une patate, ou
je
sais pas.
Je vais y aller, sinon on n'arriverait pas au bout.
Vas-y, celle-ci, ça commence.
Miss Marple.
Ah bah oui, évidemment ! Marple.
Et qui ne bougeait pas trop de sa maison, mais qui arrivait à résoudre. Allez. Encore un difficile. J'aurais peut-être dû... Allez, je fais le facile, j'inverse. Ce détective privé, qui apparaît dans 38 romans, a souvent été porté à l'écran et même à la radio sur BBC4. Lui-même créé par Agatha Christie, il est d'origine belge.
C'est pour toi, là.
Bah oui, mais c'est pour toi.
L'accent belge.
On sait Hercule Poirot une fois.
Il était belge.
On l'a cité juste avant.
Voilà, bravo. Allez, un plus difficile. C'est un personnage qui a été créé pour la télévision française en 1958.
Pour cette série d'enquête,
le spectateur est censé rechercher les indices qui permettront de découvrir le coupable. Dans certains épisodes, ce commissaire regarde l'objectif et prend directement à témoin les téléspectateurs. Et au moment de la découverte du coupable, il prononce la phrase « Bon Dieu, mais c'est bien sûr !»
Alors, c'est Maigret ?
Et non.
Colombo ? Alors, c'est les 5 dernières minutes.
Oui.
Mais le gars, il s'appelle comment ? Ménardo, il y avait Ménardo dedans.
Mais c'est pas Ménardo.
Les 5 dernières minutes.
Ouais, 5 dernières
minutes.
C'est pour
ça, il fallait juste regarder les 5
dernières minutes.
Tu dormais. Je dormais.
Alors moi, c'était mon enfance. J'étais petite.
Qui c'est ce gars ?
Alors, il était joué par Raymond Souplex, qui était un acteur
français. Merde, Raymond Souplex.
Et c'était le commissaire Bourrel.
Ah oui, Bourrel. Il a présenté le 20h après.
Non, pour moi, c'était peut-être ma question la plus difficile.
Les cinq dernières minutes.
Maintenant, c'est facile.
Colombo, il arrive.
Alors, une femme. Il y a moins de femmes que d'hommes, mais une femme quand même. Héroïne d'une série française depuis 2015, cette femme excentrique, peu diplomate et adepte de l'humour noir, ne se sépare jamais de sa chapka. Elle est capitaine de police.
Ah, je l'aime bien, c'est Marlowe.
Oui, Capitaine Marlowe.
Il faut quand même parler de ses engagements politiques à Marlowe.
Eh oui.
Je kiffe ce qu'elle pense et je n'en dis pas plus. Je parle de l'actrice.
Et donc elle est jouée par Corinne Maziero, qui est une actrice exceptionnelle et qui ne mâche pas ses mots.
Surtout qu'il y a des engagements politiques qui sont très très bons.
Très bons. Allez, un facile. Célèbre détective britannique créé en 1854 par Sir Arthur Conan Doyle et dont l'adresse est le fameux 221B Baker Street à Londres. Il est accompagné généralement du docteur Watson.
Sherlock Holmes.
Bravo, Christelle.
Bravo.
On avait anticipé la réponse.
On peut le dire quand même, on n'a pas les réponses. Je lis les yeux.
Non, c'est du vrai. Émilie. Essaye de tricher, regarde ma feuille, mais je cache.
C'est 100% découverte.
Allez, avant-dernier.
Ah.
Personnage principal. Peut-être. Alors, écoute un petit peu. On y est peut-être. Personnage principal d'une série télévisée américaine. Il est connu pour avoir résolu les enquêtes les plus complexes confiées à la police de San Francisco.
Merde.
Merde.
C'est pas lui, parce qu'il est
non,
pas là.
Lui, c'est Los... il est plus à Los Angeles.
Francisco.
Inspecteur mis en congé, il est devenu consultant. Il est connu pour ses troubles obsessionnels compulsifs et ses multiples phobies.
Ben oui,
Monk.
Monk, bravo, Émilie.
Bien sûr.
Et Monk, c'est lui, bien sûr. Il est un petit peu.
Monk.
Peut-être un chocolat, fera demander à Jimmy, on ne sait jamais. Hein. Allez, on continue, bientôt fini. Commissaire de police française. Ouais, quand même, il y a plus de Français là, un petit peu. Il a un caractère rêveur et une apparence désordonnée. Celui-là, je l'aime bien.
Pierre Richard.
Il se distingue par son absence de méthode d'investigation. C'est un petit peu moi, ça. Mais son intuition et sa grande sensibilité, c'est peut-être pour ça que je l'aime bien, lui permettent de se mettre à la place des gens. Il est accompagné par Adrien Danglard, son adjoint. Personnage créé par Fred Vargas.
Ah oui, il faut de les références aussi littéraires quand même.
Voilà. C'est Jean-Baptiste Adamsberg, mis à l'écran voilà. Également. Voilà, très okay. Intéressant.
Okay.
Voilà.
Okay.
Allez, le dernier personnage est également passé du roman à l'écran.
Lupin.
C'est un héros de 75 romans. 75, hein, okay. C'est le top. Ce commissaire français, chef de la brigade criminelle de Paris, est né en 1887 dans l'Allier. Il était fils du régisseur du domaine de Saint-Fiacre. Amateur de blanquettes de veau, de bière et de vin,
indice
fumeur
important.
De pipe, il aime fréquenter les bistrots et nous fait découvrir les lieux où il mène ses enquêtes. Il aime humer l'atmosphère des lieux pour comprendre la personnalité des différents protagonistes. Créé par Georges Simenon, qui lui était belge.
On l'a, c'est bon.
Vas-y, continue de dîner.
C'est
Georges. C'est pas Georges, il s'appelle pas Georges.
Non.
Ah, c'est
mais,
pas ça, vas-y.
Alors c'est bien, c'est Maigret, mais c'est son petit prénom c'est Jules.
Ah, j'avais
Jules
pas
Maigret.
Petit commissaire non. Jules Maigret.
Ils s'appelaient tous Jules au 19e en même temps, c'était leur prénom. Jules quand tu naissais, c'était Jules.
Bravo, vous avez bien réussi le
mais
test.
Il est bien ce quiz.
Et donc, merci, c'est gentil.
Si.
Bravo.
J'en avais d'autres, mais j'ai un peu limité quand même, sinon c'est un peu long, sinon on passerait la nuit.
Cite-les, notamment un ou deux comme ça.
J'avais pensé, c'est dans les filles à Candice Renoir, qui est à la télé, là, en ce moment, un petit peu. Bien sûr, il y avait Columbo, mais je me suis dit que c'était trop facile. J'ai pas voulu parler de Starsky et Hutch.
Ah oui.
On aurait pu, mais il aurait fallu mettre une musique, peut-être.
On aurait pu la chanter.
On aurait pu la chanter. Allez, on y va.
Mais comme quoi
Starsky et Hutch.
Nanananana.
Starsky et Hutch. Eh bien, après ce bel essai, je vous propose d'écouter. Écoutez Assassin de la police de NTM.
Ok.
Hey patron ? Ouais, mon petit Pujol ? Il vient à l'instant de sortir du studio, alors qu'est-ce qu'on fait là ? Bon, cette fois-ci, vous me les perdez pas. Il y en a marre qu'on passe pour des cons. Mais patron, la dernière fois, c'est pas de notre faute. J'en ai rien à foutre ! Il n'y a pas de dernière fois ! On a changé les bagnoles, non ? Alors je te préviens, Pujol, si tu me les paumes, tu te retrouves en képi avec un sifflet dans la gueule au milieu du carrefour. On s'est bien compris, Pujol. Ouais, patron.
Police, au parti contrôle l'identité formule. Devenue classique à laquelle tu dois t'habituer seulement. Dans les quartiers, les condés de la baie de peau. Toi, on peut pas miser aussi. Sachez que l'air est chargé d'électricité.
Alors,
pas de respect, pas de pitié, escomptez, vous aurez les regrets.
Tcha.
Jamais par la répression, vous n'obtiendrez la paix.
La paix.
La paix de l'âme, le respect de l'homme. Mais cette notion d'humanisme n'existe plus quand il passe l'uniforme. Préférons au fond la forme peur du hors norme. Pire encore, si dans leur manuel ta couleur n'est pas conforme. Véritable gang organisé, hiérarchisé, protégé sous la tutelle des hautes autorités. Port d'armes autorisées malgré les valeurs énoncées. Comment peut-on prétendre défendre l'état quand on est soi-même en état d'ébriété avancée,
souvent mentalement retardé.
Le portrait type, le prototype du pauvre type. Voilà pourquoi dans l'excès le zèle ils excellent. Voilà pourquoi les insultes de plus qu'en passent les hirondelles. Pour notre part ce ne sera pas mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils.
Police, machine matrice, des cervelets mandatés.
Police,
par la sous machine sur la tête je tisse.
Les mandatés par la justice sur laquelle je pisse.
Aucune représentative de l'entière populace. Que dois-je attendre dans les flics qui pour moi ne sont signes que d'emmerde. Regarde, je passe à côté.
Et c'est fini pour l'émission Briques et Pavés de ce mois-ci sur le thème 22 v'là les flics. Merci les copains, merci à Roland d'être venu jusqu'au studio pour être interviewé par nous-mêmes, notamment par Philippe. Il nous reste plein de petites choses à vous dire. C'est parti les amis.
Alors, le mois prochain, ce sera émission musicale, des morceaux des grangeurs et des grangeuses. On compte sur vous pour nous les faire parvenir, vos écoutes et pourquoi vous choisissez ce morceau.
Ah oui, n'oubliez pas de nous dire pourquoi vous l'avez choisi, c'est important.
On veut tout savoir. Et puis si vous voulez pas nous les envoyer par WhatsApp ou Internet ou mail, n'hésitez pas à venir nous voir à la Grange au Parapluie, notamment le 31 janvier pour le premier chantier participatif de l'année. Oui, peut-être qu'on va vous proposer de faire un petit peu de peinture, un peu de déco, un peu de gros œuvres. Et promis, on réquisitionnera aussi votre émission, votre morceau musical préféré. Et puis à la Grange, on organise aussi des sorties collectives tout plein durant ce début d'année. On commence par le 7 février, une sortie au théâtre à la scène nationale de Bourg pour aller voir le spectacle « La famille vient en mangeant ».
Le 27 février, c'est une scène ouverte locale. Vous pourrez découvrir plein d'artistes locaux.
Donc à Curcia, Donganon. Le 7 mars, on vous propose de venir avec nous pour covoiturer jusqu'à Lons-le-Saunier pour aller voir un one-man show de Roman Dodwick.
Et le 8 mars, il y aura une sortie neige, raquette, donc pour les grands, les petits, tous les âges. Alors toutes ces sorties sont à prix libre, mais surtout n'oubliez pas de vous inscrire.
Grâce au site internet, retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, tous ces drôles de réseaux asociaux, mais quand même ici pour nous aider. Un petit mot de la fin ?
Eh bien, Briques et Pavés, l'émission de janvier est finie. Malheureusement, il faut une fin à tout. Mais on se retrouve le mois prochain avec de la musique. On se retrouvera en revanche avec une émission studio parlotte, comme on l'a fait aujourd'hui au mois de mars.
Sur quel thème, dis-nous
voir. J'ai déjà oublié le thème, je ne sais plus. On
le
en a tellement.
Le collectif, peut-être.
Ah, c'est déjà le collectif. Alors, ça sera. Oui. Est-ce que l'individualité.
Non, on...
non,
alors.
Pas
alors,
le collectif,
alors
non.
Eh ben, surprise. Puisque de toute façon, on parle de quoi ? On parle du printemps. On sera diffusé fin mars. Vous vous rendez compte ?
Oui,
l'hiver sera fini.
On a le temps.
En attendant, on écoute les Clash. Pour finir, on a pas pris le dos de la cuillère. C'est le morceau qui dure plus de 6 minutes. Au moins 6 minutes. J'ai un mauvais anglais, malheureusement, Agnès.
Ah, Agnès.
Le titre, c'est Police and Thieves.
Oh, Police and Thieves.
Allez, wow. C'est parti. À bientôt, les amis.
À bientôt.
À bientôt.
Ciao.
The next generation.
Pavé pour aujourd'hui, c'est terminé.
Retrouvez-nous en podcast sur le site de Radio B
ou sur le site de la Grange au Parapluie.
Briques et Pavés,
l'émission qui dégrange.